BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine pour vous accompagner jusqu'à midi. Et toute l'info éco nous est apportée par Stéphanie Collot.
BFM Business. L'info éco.
Et à la une, c'est toujours le dossier Casino. Les prétendants au sauvetage avaient jusqu'à hier soir pour déposer leurs offres. Selon nos informations, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladré de la Charrière, vont investir 900 millions d'euros et propose aux créanciers d'investir la même somme pour renflouer le distributeur. Autre offre sur la table, celle du trio Zoari, Niel, Pigas. Ils proposent eux aussi d'injecter 900 millions d'euros à condition que la dette du distributeur soit réduite de moitié. Ces offres seront étudiées demain par le conseil d'administration de Casino, les créanciers et les conciliateurs. Le détail des offres sera précisé demain après bourse. Un mot des émeutes. Une semaine après le début des violences urbaines, les commerçants victimes de dégradation ont déclaré à ce stade 5800 sinistres pour un montant d'au moins 280 millions d'euros. L'État s'est dit ouvert à certaines annulations de charges sociales et fiscales. De son côté, France Assureur s'engage pour accélérer le processus d'indemnisation, répondant ainsi à la demande de Bruno Le Maire. On écoute le ministre de l'Économie.
À la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. C'est un point très important, ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants. Ils ont également accepté, à la demande du gouvernement, de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés. Je crois que c'est aussi un élément très important. Enfin, ils se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible.
En Italie, le déficit public dépasse désormais les 12% du PIB au premier trimestre contre 11,3% sur la même période en 2022. Pour l'ensemble de l'année, Rome table sur un déficit à 4,5% du PIB grâce à l'accalmie sur les prix de l'énergie qui réduit les subventions aux ménages et aux entreprises. En Allemagne, les exportations reculent de manière inattendue au mois de mai. Elles baissent de 0,1% par rapport au mois précédent. Les importations ont, elles, augmenté d'un 1,7% par rapport au mois d'avril. C'est un nouveau cap franchi dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Washington va restreindre l'accès des services cloud à Pékin, selon le Wall Street Journal. Amazon et Microsoft devront demander au gouvernement américain une autorisation avant de fournir leurs clients chinois. Hier, la Chine a annoncé qu'elle allait contrôler les exportations de certains métaux utilisés par l'industrie des semi-conducteurs. Et puis, le dernier vol d'Ariane 5 est reporté, initialement prévu ce soir. Il est reprogrammé demain en raison de conditions météo défavorables. Et ce sera l'ultime décollage de la fusée européenne après 27 années de service, avec à son bord un satellite militaire français et un satellite d'observation allemand, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, chaque heure pour vivre au rythme de l'actualité. Et nous, on file à la bourse.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Antoine Larigauderie, qu'on retrouve depuis le siège d'Euronext et ce marché où il ne se passe pas grand-chose ce matin, Antoine.
Un marché toujours extrêmement hésitant, pas de tendance bien définie, un petit peu dans l'ordre d'idées que nous inspirait Wall Street en clôture hier, au terme d'une demi-séance, hein, puisqu'on est en période de jour férié. Ce sera la fête nationale américaine aujourd'hui. Il n'y aura pas de séance du côté de Wall Street déjà. Donc, du coup, les volumes d'échanges sont extrêmement faibles et il y a très peu de dynamique. Hein, plus 0,02%, on est à 7388 points. Pour le CAC 40, on reste à portée des 7400, mais enfin, on n'a aucune intention d'investissement bien précise. On a même le DAX à Francfort qui est passé légèrement dans le rouge, moins 0,09%. L'Eurostock 50, lui, reste dans le vert, plus 0,12%. Alors, à noter quand même un facteur de marché important ce matin, c'est un petit raidissement sur les taux obligataires 10 ans. On l'a dit, la Banque Centrale Australienne a décidé de faire un statu quo sur ces taux, mais a prévenu que d'autres relèvements seront nécessaires, hein, d'autres relèvements supplémentaires, dans le sens où la lutte contre l'inflation est absolument pas finie, hein, en Australie y compris. Donc ça ne fait que confirmer le biais haussier des taux du côté de la carte du monde des banques centrales. Et évidemment, ça provoque quelques ajustements de court terme. À noter que parmi les valeurs en baisse, hein, sur le CAC 40, sont davantage les valeurs industrielles qui sont un petit peu ankylosées. Hein. Alstom qui recule de quasiment 4% à 26,07 €. On a Renault moins 19 à 38,08 €. Saint-Gobain moins 0,8 à 55,44 €. Air Liquide moins 0,75% à 163,18 €. Des valeurs qui sont quand même pas mal redressées la semaine dernière. Mais voilà, incertitude sur le cycle économique. On les met de côté aujourd'hui. Worldline signe en revanche la plus forte hausse du CAC 40 et signe un bilan assez intéressant ces derniers jours. Le titre se reprend bien, plus 1,8%. On est à 35,33 €. Noté Unibail Rodamco Westfield, plus 1,3% à 48,95 €. Eurofin Scientifique, plus 1,19 à 57,92 €. Et puis, des taux obligataires qui remontent. Ça fait les affaires du secteur bancaire. Société Générale gagne 1% à 24,30 €. On a le secteur du luxe qui se redresse un petit peu après une ouverture plutôt négative. LVMH gagne 0,8% à 861,40 €. On a également Kering, plus 0,48 € à 506,40 €. Virbac, toujours en très forte baisse sur le SBF 120. Le titre perd 8,12% à 249 €. Et puis à noter Casino, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Titre encore extrêmement volatile. Là, en forte hausse aujourd'hui, c'est même la plus forte hausse du SBF 120, à plus 16,2%, 4,57 €. Le CAC, donc quasi inchangé, petit a priori positif à plus 0,06%, 7390 points. Et l'euro repasse légèrement sous 1,09 à 1,08,97, Cédric.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie qui suit pour nous cette séance minute après minute depuis le siège d'Euronext à la Défense et cette salle de contrôle du CAC. Nous, on retrouve Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Et on accueille ce matin Irina Topasseri et Mathieu Bailly. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Cédric.
Irina pour AXA-IM, Mathieu pour Octo-AM. Bon, beaucoup de banques centrales encore. Il y a eu les réunions et puis la semaine dernière le forum de Sintra avec une forme de service après-vente des décisions. Et du coup, on s'interroge encore beaucoup, d'autant que il y a une proposition qui est dans l'air du temps, en fait, ou soutenue entre guillemets par Olivier Blanchard autour de la cible d'inflation. Alors on va essayer de remettre un petit peu toutes les choses dans le bon sens. D'abord, entre nos deux banques centrales, est-ce qu'il y en a une, Fed ou BCE, qui a plus raison que l'autre, Irina?
Je suis pas sûre. Hein. D'abord, elles ont commencé à des moments différents, elles subissent des chocs communs, mais aussi différents. Il faut dire que la Réserve fédérale a dû aller beaucoup plus vite parce qu'il y a eu quand même l'énorme effet des soutiens budgétaires d'abord du gouvernement Trump et après Biden qui ont été colossaux. Hein. Et donc, des réactions peut-être légèrement différentes, toujours dans le même sens. Hein. Donc, il n'y a pas une qui a raison, pas une qui a tort. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression, un peu comme vous dites, à Sintra, on a eu un peu du redit, hein, peut-être. Hein. Et je pense que les marchés l'ont bien vu. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements là-dessus. Peut-être que la BCE a surpris un tout petit peu, un chouïa de plus sur le ton hawkish, qui était hawkish, mais qui est resté peut-être un tout petit peu plus. Mais bon, en gros, le message, il est commun, hormis le Japon. Les banques centrales des pays développés, en tout cas, s'accordent aujourd'hui à dire que les taux d'intérêt devraient rester plus hauts et pour plus longtemps que peut-être on anticipait au départ. Donc il y a quand même une synchronisation des messages de ce point de vue-là, après que ça soit une hausse de plus, deux hausses de plus. Enfin bon.
Oui. C'est pas à 0,25 ou à 0,50
Non, ouais, exactement.
Comment voyez les choses, Mathieu, vous? Est-ce qu'il y en a une qui a plus raison que l'autre? Est-ce que il y en a une qui est plus dans le bon ton que l'autre? Est-ce que...
Non, parce qu'en gros, elles ajustent leur ton un petit peu chacune quand elles voient que les marchés sont un petit peu trop optimistes sur potentiellement un retour en arrière. Chacune à son tour va dans un sens ou l'autre, mais globalement, elles ont à peu près la même politique. Et cette politique-là, aujourd'hui, elle est actée, mais elle n'est pas forcément actée dans les marchés. Et c'est ça qui leur pose question. C'est que plutôt, l'objectif, c'était de le faire... Alors, il y a eu un gros choc au départ sur les taux, hein, puisqu'ils sont passés de 0 à 4. Et puis ensuite, c'était d'alerter les marchés sur le fait que ça pourrait durer. Et en fait, ça, ça ne se produit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté les actions qui sont plutôt à peu près au même niveau qu'elles étaient début d'année dernière, mm-hmm. avant la hausse des taux. De l'autre côté, les taux longs qui sont très bas. Ils sont le taux 10 ans allemand, par exemple, est autour de 2 et 2,50, alors que le taux de la BCE est à 4%. Et ça, la BCE craint, je pense aussi, qu'à un moment, il y ait une prise de conscience soudaine et que ça crée un choc un peu trop fort. Et donc, elle essaierait plutôt de prévenir en disant
on va continuer
et ça ne se répercute pas sur les valorisations d'actifs. Et je pense que ça peut aussi à un moment inquiéter. Alors, en tout cas, moi, ça m'inquiète.
Vous, ça vous inquiète. Je le disais aussi, il y a cette proposition, parce que toutes nos banques centrales, elles ont comme ça des espèces de bouées sur lesquelles elles sont accrochées, de cibles, et celle des 2%, elle fait partie du paysage depuis fort longtemps. Et je me souviens qu'au début de la remontée de taux, il y a quelques mois, on s'est interrogé sur le contexte actuel, sur la persistance d'une inflation plus forte, et on s'est dit, tiens, est-ce que finalement les banques, elles devraient pas, comme elles l'avaient fait un peu à un moment en disant, au lieu d'être 2, c'est 2 sur longue période, c'est 2 plus 2 moins, est-ce qu'elles devraient pas remonter le truc pour se dire, bah, désormais, le temps qui vient verra une pression un peu plus nette sur les prix que ça n'a été dans le passé. Et on a un peu évacué ce truc-là en disant non, parce que ça remettrait en cause leur crédibilité. En clair, changer l'objectif parce qu'on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, elles sont en passe, entre guillemets, d'y arriver. Et cette idée revient par la voix d'Olivier Blanchard. Est-ce que passer de 2 à 3, par exemple, ce serait une bonne idée aujourd'hui, ou en tout cas de se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça remet moins en cause la crédibilité des banques maintenant qu'elles ont agi? Enfin voilà, comment est-ce que vous regardez cette proposition faite par l'ex-économiste en chef du FMI?
C'est pas nouveau en effet. De manière peut-être contre-intuitive, je pense que le sujet s'est posé largement plus quand on n'y arrivait pas d'atteindre le 2. C'est là où on voulait le remonter. C'est là où on a eu des discussions très vives sur... parce qu'en fait, la cible d'inflation ancre en quelque sorte les anticipations. Et comme on voyait qu'on avait du mal, on était en train de rouler dans une déflation qui semblait s'installer, on avait envie de donner un peu plus de mou pour positionner les ménages et les entreprises sur une inflation plus élevée, puisqu'on n'y arrivait pas par les moyens de la politique monétaire pure. Maintenant, il me semble que c'est un peu difficile d'en parler maintenant. D'abord parce qu'on a overshooté cette cible de manière significative, qu'on est en train de petit à petit s'en approcher et la lâcher en cours de route avant d'avoir atteint la cible peut être vu comme pas nécessairement un manque de crédibilité, mais ça peut causer un désancrage des anticipations. Et ça cause un nombre d'ajustements, en fait. Pourquoi on a une cible? C'est justement pour fixer un nombre de d'agrégats à très long terme. Donc, si on le fait maintenant, c'est peut-être un peu... ça peut perturber, je pense. Donc, peut-être qu'il faudrait d'abord arriver beaucoup plus proche, dire on a atteint, maintenant on fait une étude en profondeur et on dit que, je ne sais pas, nos agrégats économiques d'aujourd'hui table sur. Et l'idée, je pense, centrale là-dedans, c'est de dire que, justement, avoir plus de marge de manœuvre, donner plus de marge de manœuvre à la politique monétaire avec une cible plus haute, par rapport à des forces déflationnistes qui reviendraient un jour. C'est toujours dans cet esprit-là et pas nécessairement dans l'autre esprit. C'est vrai que je pense que...
Donc Blanchard est un peu tôt.
Oui, non, mais oui, exactement. Et puis il le disait avant aussi, hein, donc c'est pas pareil. Donc il parle bien de donner de marge de manœuvre sur la déflation, alors qu'on peut l'interpréter aujourd'hui comme donner du lest à l'inflation. Ça, alors même que, effectivement, il le dit, et nous on le voit très bien, passer de 10 à 4, c'est plus facile que passer de 4 à 2. Et donc, il y a effectivement ce risque-là sur cette parenthèse-là, si vous voulez, que la politique monétaire fasse un peu de trop. Et on ne sait pas, en fait, la vitesse à laquelle les agrégats s'ajustent derrière. Hein. Donc, c'est toujours ça la question.
Votre sentiment, à vous, chez Octo, sur cette proposition remise sur la table? Parce qu'effectivement, on en a déjà causé.
Ce dont on se rend compte quand même depuis 15 ans, c'est que autant les banques centrales peuvent, en fonction d'un environnement économique, d'une inflation vraiment trop faible ou vraiment trop forte, crée un environnement qui contrepoît face aux forces économiques. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'elles n'arrivent pas à viser n'importe quelle cible. Ils n'ont jamais atteint les objectifs pendant 10 ans. Et ils ne les atteignent toujours pas là. Ça fait 2 ans qu'ils disent on va remettre l'objectif autour de 2, entre 2 et 3. Et finalement, ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que l'économie se corrige d'elle-même au fil de l'eau, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'il l'a fait, qu'il l'avait dit. Et finalement, on se rend compte que c'est plutôt... On a souvent cru que l'inflation dépendrait des banques centrales, et en fait, c'est l'inverse. C'est la politique des banques centrales qui dépend de l'inflation qui existe. Après, qu'on ait une cible à 2, 3, ça dépend si juste on est au-dessus ou pas, mais c'est plus, faut plus considérer ça comme un environnement et se dire la politique va être très restrictive ou un peu moins restrictive, mais après, franchement, ça change pas grand-chose.
Voilà donc pour ces questions monétaires. On a maintenant devant nous le deuxième semestre qui commence. Quels sont un petit peu les catalyseurs pour vous? Ces questions d'inflation, parce que le premier semestre, il a été marqué effectivement par cette hausse de taux, par ces questions d'inflation, et puis aussi par d'autres facteurs un petit peu comme la Chine, sur laquelle on a beaucoup misé et qui nous a beaucoup déçus. Il y a de plus en plus d'experts qui succèdent à ce micro qui disent on a trop attendu de la Chine. Comment est-ce que vous voyez un petit peu le reste de l'année se profiler là? Qu'est-ce qui peut dominer notre actualité conjoncturelle?
Oui, vous avez raison. Le début, ça a été essentiellement inflation, banque centrale, normalisation des politiques monétaires. Là, on est probablement à la fin de la normalisation des taux d'intérêt. Je pense que comment ils disent en anglais, le grand éléphant dans la pièce lors de Sintra, c'était aborder le sujet des ajustements des bilans des banques centrales, parce que je pense que c'est là où ça va peut-être au deuxième semestre, c'est ça le sujet qu'on va aborder. Et en soi, lui-même, il pourrait jouer un rôle de resserrement monétaire. Donc on va plus utiliser peut-être l'outil
les taux,
taux directeur, mais plutôt le bilan. Ça a largement du sens de le faire. Donc voilà, quelque chose qui va probablement se passer sur la deuxième moitié de l'année. Et puis après, je pense que le sujet va petit à petit, évidemment, se décaler sur la croissance. Qu'en est-il de la croissance? La croissance qui a généralement surpris positivement, c'est-à-dire la croissance est bien plus résiliente
même à se demander s'il y aura une récession aux États-Unis, par exemple.
Exactement. Donc la question reste ouverte. Nous, on voit bien les choses se dessiner d'ores et déjà. On a déjà pas mal d'indicateurs qui tablent sur des récessions, des indicateurs de fréquence haute ou en général. Donc on voit bien un ralentissement de l'économie américaine se passer. Maintenant, est-ce que c'est une récession cyclique, vers quoi on se dirige au deuxième moitié de l'année ou bien fin 2023, début 2024. Donc reste à voir à la vitesse d'ajustement. Mais effectivement, en Europe, par exemple, là aussi, nous avons eu une récession peut-être technique en Allemagne sur le quatrième trimestre de l'année dernière et le premier de cette année. Mais on voit pas l'économie européenne rebondir de cette récession. Donc quelque part, ça peut rassurer tout le camp dovish, colombe au sein des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Les choses devraient se tasser, en tout cas, sur la deuxième moitié. Effectivement, comme vous le disiez, la Chine, on l'attendait très forte au premier semestre. On a eu un premier trimestre effectivement excellent, en fait. Donc la réouverture s'est passée de manière très forte sur la croissance, mais elle était c'était essentiellement en janvier. Et depuis, on voit les indicateurs refluer en Chine. Donc effectivement, il y a la grande question de la tendance après. On a l'impression, enfin, on voit bien que le deuxième trimestre ne sera pas bon. Que se passera-t-il au deuxième semestre en Chine restera éminemment probablement lié à la réponse des politiques budgétaires et monétaires qui devrait un petit peu venir à la rescousse. Elle commence petit à petit, mais enfin, il manque un peu la réponse forte qu'on a connue en Chine par les crises passées. Bon, à suivre si ça peut venir en contrepoids sur la croissance mondiale qui risque de s'affaiblir un peu partout dans le monde au deuxième semestre.
Vous, Mathieu, comment vous percevez cette deuxième partie d'année? Parce que vous nous disiez que vous étiez quand même inquiet sur 2-3 petites choses au début.
Alors, justement, le sujet a commencé par les taux courts. C'est-à-dire que c'est les banques centrales qui ont de force dit, il faut que les taux courts montent. Puis ensuite, il y a toujours un retard sur le reste. Il y a d'abord eu un retard sur les taux longs, puis après, il y a un retard sur tous les actifs qui dépendent des taux longs. Les actions, l'immobilier, les actifs un peu moins liquides, etc. Et aujourd'hui, on est un peu dans une dichotomie entre certains actifs qui anticipent une récession et certains autres qui anticipent plutôt une croissance molle. Et c'est dans cette partie d'année ou dans ces mois prochains que je pense on pourrait voir une normalisation de ça, c'est-à-dire savoir vers où on s'oriente et qu'il y ait des corrections sur certains actifs, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais il n'est pas logique que vous ayez une pente si négative que ça, c'est-à-dire que normalement, plus on prête à long terme à un émetteur, plus on doit payer. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous avez un différentiel de 100 points de base. Donc les plus craintifs vous diront oui, mais c'est parce qu'il va y avoir une récession très forte et les banques centrales vont devoir baisser les taux. Mais de l'autre côté, vous avez les banques centrales qui vous disent non, on ne les baissera pas. Donc ça devrait se normaliser. Et donc c'est plutôt ça qui attend, c'est une re-hiérarchisation des prix entre les classes d'actifs qui aujourd'hui n'existent pas.
Pour être clair, vous tranchez pas, mais vous nous dites en tout cas on peut pas rester sur cette crête.
Alors je tranche pas forcément sur tout. En revanche, il y a certains sujets sur lesquels on a pris nous des positions. On est convaincu que il vaut mieux croire les banques centrales que croire les anticipations d'investisseurs qui, depuis 10 ans, se sont habitués à avoir ce confort d'un coussin de la Banque centrale qu'ils sont en train de perdre. Effectivement, la réduction du bilan, les taux courts, ils ont joué sur la partie courte de la courbe, par définition. La réduction du bilan va jouer sur la partie longue. Et pour l'instant, c'est pas vraiment entamé. Et ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. On est juste sur le tout début. Ça peut avoir un effet assez fort. Donc, sur ce point-là, nous, on est plutôt à se positionner sur les parties les plus courtes de maturité. Ça sert à rien d'aller chercher du 4, 5, 6 de taux sur du 10 ans quand on peut l'avoir sur du 1 an ou 2.
Enfin, bien sûr.
D'autant plus que on voit bien qu'on est quand même encore dans une incertitude très forte. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous avez des produits liquides relativement courts, avec une bonne visibilité qui font du 4 ou 5, pourquoi aller continuer de se mettre sur ce qu'on avait eu l'habitude de faire dans la décennie passée? Et je prends des exemples, regardez l'immobilier aujourd'hui, vous avez pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement des transactions? C'est que du côté des investisseurs, acheter de l'immobilier à 3% ou 4% quand vous avez en plus les frais de la gestion, les frais de gestion élevés, de la vacance, des rénovations, les diagnostics énergétiques qui font que ça va aussi coûter. Finalement, votre rentabilité elle baisse fort par rapport à une rentabilité des taux qui est plus élevée.
Un changement de paradigme. On rentre dans une période où la Banque centrale n'est plus votre ami. Donc il faut réajuster un peu. Le marché doit apprendre à lire, justement, ça.
Et en plus, concrètement, on a même des acteurs de marché qui, de façon générationnelle,
n'ont jamais connu autre que l'amitié de l'accompagnement de la Banque centrale sur ces dernières beaucoup d'années. Donc il y a un vrai changement. Et donc, effectivement, le marché qui doit apprendre à lire, justement, ces messages et à les intégrer.
Il y a beaucoup de questions macro qu'on a évoquées ensemble. Il y a un phénomène aussi qui est à la frontière de la macro et de la micro, ce sont les résultats d'entreprise. Parce que, pour le moment, les boîtes, chaque fois qu'on les consulte, chaque fois qu'il y a eu des publications de résultats, ils ont été bons, les perspectives sont restées bonnes, etc. Alors, je ne vais pas vous demander de rentrer dans le détail de chaque grande boîte du CAC qui va publier dans le cours du mois de juillet, mais malgré tout, voilà, c'est un moment ou aussi macroéconomiquement, on peut aller saisir le pouls. Aujourd'hui, tout le monde nous dit ça va encore être bon.
Macroéconomiquement, on doit s'attendre quand même à ce que les marges commencent à refluer.
Oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on dit ça.
Ça fait plusieurs fois, effectivement. Une des raisons de la difficulté de transmission de politique monétaire, justement, à l'ensemble de l'économie, a été l'excès d'épargne, que ça soit du côté des entreprises et des ménages. Donc, les ménages, j'ai déjà mentionné aux États-Unis, mais enfin en Europe aussi, donc un coussin protecteur de l'épargne qui a permis aux ménages de continuer de consommer malgré la remontée de l'inflation de manière plutôt correcte. Et en plus, cela a donné un deuxième message aux entreprises qu'elles pouvaient continuer à augmenter leurs marges dans un environnement inflationniste. Donc, elles faisaient inflation et un petit peu plus parce que la demande, elle y était. Et en face de ça, les entreprises aussi montrent des niveaux encore aujourd'hui de cash, de liquidité assez élevés. Donc, il y a un peu de complaisance dans le système. Mais en dessous l'eau stagnante, on voit que ça bouge quand même. On le voit sur les surveys, les enquêtes de la Banque Centrale Européenne sur le crédit. On voit déjà que ça commence à se tendre. On voit que la demande de crédit commence à se tendre aussi. Donc l'offre de crédit qui commence elle-même à répondre face à la remontée des taux, effectivement, mais aussi face à une demande qui semble quand même un petit peu accuser le coup. Donc, on a quand même quelque chose qui se passe. C'est ce que je vous dis. Ça se passe. On le voit déjà ici et là. Maintenant, voilà, il va falloir continuer à ce que ça. Et puis le débat monte, grogne. Hein, on entend bien les négociations salariales qui demandent un peu plus d'inflation, qui disent, ne nous tapez pas sur les doigts. Nous, on fait que de la récupération de l'inflation passée, bien sûr, ouais. Alors que les entreprises ont pris le. Donc on sent quand même que le débat se tend. Et qu'effectivement, il se peut que les entreprises elles-mêmes comprennent qu'il est temps de lâcher un petit peu de leur marge pour mieux appréhender la phase d'après. Donc, oui.
Qu'est-ce qu'il faut appréhender de cette période de publication de résultats ? Parce que, bon, vous êtes plutôt obligataire, etc., mais malgré tout, le marché, il a réagi avec une nouvelle jambe de hausse, entre guillemets. Enfin, il a apprécié chaque rendez-vous entreprise. Est-ce qu'il faut s'attendre, là encore, à ce qu'on l'apprécie, ou est-ce qu'effectivement on arrive là aussi à un moment où il va falloir faire un choix?
Alors pour le moment, effectivement, les marges ont été maintenues. Hormis l'excès d'épargne, il y a aussi eu le fait que les États, en particulier en Europe, ont pris à leur compte les hausses de prix sur certains actifs qui montaient beaucoup, comme les
boucliers et autres. Ouais.
Donc ça a fait de l'inflation sur le reste. Après, l'inflation, elle a été quand même très hétérogène, que ce soit entre les secteurs et aussi entre les catégories d'entreprises. Quand vous avez des très grosses sociétés qui ont des très grosses marques très connues et qui ont un pouvoir de négociation face aux distributeurs, les marges se sont maintenues. Quand vous êtes une PME ou ETI, ça a été beaucoup plus difficile, et on a vu pas mal d'enseignes, notamment dans le bio, qui sont souvent un peu moins qui sont un peu moins fortes en termes de taille, en termes de puissance de marque, qui pour le coup ont eu beaucoup de difficultés. Nous, en tant qu'obligataires, c'est vrai qu'on a vu depuis... Pourquoi est-ce que les entreprises ont beaucoup plus de cash aussi qu'avant? C'est que ça fait 4 ans qu'elles sont extrêmement prudentes, parce qu'elles vont de choc en choc. Il y a eu le Covid, il y a eu ensuite un peu plus de Covid qui durait, l'Ukraine, ensuite on leur a dit, l'Ukraine, ça fait une énorme inflation, donc ils ont économisé sur les coûts, et puis maintenant on leur dit, pour lutter contre l'inflation, on va vous faire une récession, donc vous allez sans doute vendre moins. Et donc ça fait une solidité et aussi un travail énorme sur la partie coût plutôt que aussi autant que sur la partie prix, qui fait que ça pourrait encore tenir. Après, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que la partie salariale a pris un fort relais de la partie plus énergétique, matières premières, l'année dernière, et que ça concerne tout le monde. Et que autant il y avait des métiers qui arrivaient à maintenir les marges avant, qu'aujourd'hui ça pourrait être plus dur, notamment dans les services.
Merci beaucoup à tous les deux.
Je vous en prie.
Et oui, le chrono file. On avait encore plein de choses à se raconter, mais c'est comme ça. Irina Topasseri, donc AXA IM, et Mathieu Bailly pour Octo AM. Merci à tous les deux d'avoir échangé ce matin sur le plateau. Dans un instant, un petit détour par les marchés, puis on continue ensuite à vous donner un maximum de conseils. On est ensemble jusqu'à midi.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Romain Daubry nous attend pour commencer cette dernière demi-heure. On le retrouve depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Et ce marché qui est figé sur son niveau de clôture d'hier soir.
Quasiment complètement. Un peu de retracement quand même par rapport au point haut. Ce qu'on disait encore une fois, il n'y a pas d'alerte majeure. Il y a un marché qui flotte. Si on regarde du côté des marchés dérivés, il n'y a pas eu de construction ou de destruction d'intérêt depuis une dizaine de jours maintenant. En tout cas, pas significative. Encore une fois, on a cru à un petit regain d'intérêt au franchissement de niveau technique. Et puis, on n'y arrive pas. Si on regarde l'Eurostox, 4411 sont les tops sur lesquels on a buté déjà plusieurs fois depuis mars dernier. On n'arrive pas à déborder ce niveau sur l'indice majeur européen. Sur le CAC 40, 7435 futur, c'est une grosse résistance. On n'arrive pas non plus à la déborder. On n'a pas les relais. Pourtant, on s'est installé au-dessus du niveau technique intermédiaire, 7382, qui est un niveau important. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 7150 sur le CAC, il n'y a pas d'alerte. Déjà, enfoncer 7284 sur un petit warning, mais vous voyez, les niveaux d'alerte sont loin. Donc, qu'on retrace un peu, qu'il y ait un peu d'attentisme. C'est possible. Sur le DAX aussi, on a quand même quelques signaux de faiblesse. On n'arrive pas justement à aller chercher la borne haute du trading range sur le DAX. On l'a retracé avant. Donc peut-être un indice un peu plus faible de ce côté-là. Et puis sur les valeurs, on n'a pas de configuration extraordinaire. Alors paradoxalement, on a quelques configurations qui sont intéressantes sur des small and mid-caps. Alors, on a quand même Worldline qui, techniquement, sur les grosses, donne un petit signal, mais c'est du court terme. On a des valeurs comme Aramis Auto qui se retourne depuis quelques jours à nouveau, qui réactive sa dynamique haussière. On a de Richbourg aussi, sur lesquels il se passe des choses intéressantes. Donc, il y a quelques valeurs comme ça qu'on peut surveiller en small and mid-caps, mais il n'y a pas de grandes choses à faire sur les grosses capitalisations. On voit que ça bloque un peu et peut-être pour quelques temps. En revanche, si on regarde du côté des autres actifs, le Brent a l'air de se compresser un peu. Le pétrole, on le surveille. On a pris une petite position spéculative haussière dans l'idée d'une compression qui se mettrait en place et d'une accélération un peu brutale qui pourrait être marquée. Et puis, parmi les actifs qui témoignent de l'attentisme et de la prudence, enfin de possible des opérateurs, on voit que l'or se tend un petit peu. Le signal pour nous serait déclenché au débordement de 1929 $ l'once, 1929,5 $, pour aller chercher 1977 au moins. Et puis, pareil sur la volatilité, quand on regarde le VIX, il est dans une petite structure de compression, un petit biseau qui descend vers le bas, qui pourrait donc, en cas de sortie par le haut, indiquer un stress à nouveau sur les marchés. Donc, on voit que les choses ont l'air de se mettre en place pour supporter un petit choc, si c'était le cas. Encore une fois, pas de retournement majeur, mais on a l'impression que les choses se tendent un peu partout et qu'une sortie un peu brutale pourrait se mettre en place dans les heures qui viennent.
Merci beaucoup Romain pour ces observations sur cette tendance un petit peu indécise qui se cherche. Le CAC sur son niveau de clôture d'hier soir, 7387 points, il est pour le moment inchangé. C'est d'ailleurs une tendance qui prévaut un petit peu aussi ailleurs en Europe. L'Eurostock 50 grignote un tout petit peu plus de terrain. L'Eurodoll est à 1,0902.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui accueillent ce matin Isabelle Fauchon, bonjour.
Bonjour Céline.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Neuflize OBC. Et on va parler des familles qui se retrouvent souvent à devoir gérer des actifs, soit en démembrement de propriété, de manière classique, un ou les deux parents sont usufruitiers et les enfants sont nus propriétaires. Qu'est-ce que ça implique exactement ?
Alors, comme son nom l'indique, le démembrement de propriété suppose une répartition des droits sur un bien entre deux groupes de personnes. L'usufruitier ou les usufruitiers qui vont avoir le droit d'usage sur un bien ou les revenus du bien, et le ou les nus propriétaires qui vont pouvoir disposer du bien, mais sous réserve de respecter les droits de l'usufruitier. Et c'est surtout, en fait, l'idée qu'ils auront la pleine propriété au terme de l'usufruit. Et donc, comme on a ces deux groupes de personnes, eh bien, ils vont devoir apprendre à gérer ensemble ce bien.
Alors, ce démembrement, il peut être d'abord contraint, par exemple dans le cadre d'une succession, ou aussi il peut être choisi quand on fait une donation, par exemple.
Voilà, c'est très souvent le cas. En fait, des parents souhaitent anticiper la transmission de leur patrimoine, le plus souvent à leurs enfants. Ils vont garder l'usufruit jusqu'au, en général, le décès du dernier des deux parents. Et ils vont transmettre la nue propriété aux enfants. Donc là, l'avantage, il est double. C'est-à-dire que les parents gardent l'usage du bien ou les revenus selon la nature du bien. Et il y a aussi l'avantage fiscal. C'est que je ne me dessaisis que de la nue propriété. Donc la fiscalité ne porte que sur cette nue propriété qui va être déterminée selon un barème fiscal qui dépend de l'âge du donateur usufruitier au moment où il donne. Donc ça fonctionne par dizaines d'âges. Titre de règle pratique, entre 51 et 61 ans, la nue propriété vaut 50% et elle vaut 60% entre 61 et 71. Donc l'abattement des 100 000 euros, le barème va porter sur ces 50% dans mon exemple. Et le deuxième effet, c'est au décès de l'usufruitier, quelle que soit la valeur du bien à ce moment-là, quelle que soit la date du décès, eh bien, le nu propriétaire recouvre la pleine propriété, mais sans qu'il y ait de fiscalité supplémentaire.
Donc, transparent fiscalement.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce que ça implique pour les parents et les enfants d'avoir des droits complémentaires sur ces biens démembrés ?
Alors, ça implique que, il faut bien avoir à l'esprit que le parent qui donne, même s'il ne donne que la nu propriété, et s'il prévoit des charges dans la donation pour limiter les droits du nu propriétaire, eh bien, le parent s'est dessaisi quand même d'une partie de ses prérogatives. Il ne peut plus se comporter comme s'il avait la pleine disponibilité du bien. Et on va pouvoir anticiper certaines choses dans l'acte de donation, mais pas tout. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'un démembrement sur un bien immobilier, il va se poser notamment la question de savoir qui est-ce qui paye les frais. Par principe, l'usufruitier va payer les charges courantes, les frais d'entretien, et le nu propriétaire, les grosses réparations. Mais des fois, en fait, on ne sait pas trop si les frais rentrent dans une catégorie ou dans l'autre. Et en plus, celui à qui c'est de payer, il n'a pas forcément la trésorerie pour le faire.
Oui, c'est ça. Quand il s'agit d'un démembrement qui porte, parce que là, on a l'impression, et c'est le cas le plus fréquent, qu'on est dans de l'immobilier, etc. Mais on peut aussi démembrer, par exemple, des valeurs mobilières. Et là, pour le coup, il y a les mouvements, il y a la fiscalité. Enfin, c'est complexe aussi.
Voilà.
Voire même peut-être plus complexe.
Exactement. Parce qu'il y a plus de mouvements sur un portefeuille titre que
sur une maison. Ouais.
Et quand on nous dit, quand on est sur un portefeuille titre, la gestion du portefeuille, elle va nécessiter des arbitrages. On va vendre un titre, on va en racheter d'autres, et le prix de vente, il va être réinvesti dans des nouveaux titres. Et là, l'administration fiscale, elle nous dit, eh bien, dans ce cas-là, quand il y a une plus-value, c'est au nu propriétaire d'acquitter l'impôt. Donc, il doit puiser dans ses revenus personnels, dans son patrimoine personnel, pour payer cet impôt. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus... c'est un gros écueil.
On voit la difficulté qu'il y a effectivement quand on détient ses actifs démembrés en direct, mais quels sont les apports de la société civile dans ce cas-là ?
Alors, ils sont nombreux. C'est déjà, quand on va constituer la société civile, eh bien finalement, le démembrement qu'on avait sur les biens, il se reporte sur les parts sociales, sur les titres de la société civile qui vont être représentatifs du capital social. Mmh. Mais la société civile, elle va être pleinement propriétaire des actifs, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des titres et du passif. Donc en tant que pleinement propriétaire, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Et en plus, les décisions qui vont finalement être la gestion de la société conformément à l'objet social qui sera défini dans les statuts, ben cette gestion, elle va être faite par le gérant, en général une seule personne, et en général, c'est mon parent donateur qui aura certes transmis,
garde le pot, ouais,
mais qui reste maître chez lui.
Donc, par la société, il y a des avantages. Bon, on l'a bien compris, effectivement, parce que c'est la société qui est pleinement propriétaire. Mais les relations entre les usufruitiers et les nus propriétaires,
alors, c'est...
Qu'est-ce que ça devient ?
Ça va être régulé, enfin organisé, par les statuts. Et c'est pour ça qu'on parle souvent dans ces sociétés patrimoniales d'une société civile, parce que c'est une structure qui offre le plus grande liberté dans la rédaction des statuts. Par défaut, l'usufruitier a le droit d'affectation du résultat, mais on peut prévoir justement dans ces statuts de lui accorder des droits beaucoup plus larges. Finalement, il pourrait avoir tous les pouvoirs, sauf bien évidemment les décisions qui supposeraient une augmentation des engagements du nu propriétaire, où là on pense que c'est quand même très limité. Mais typiquement, en premier lieu, l'usufruitier, il va avoir le droit de vote pour nommer et révoquer le gérant. C'est-à-dire lui, en fait, il ne pourra être éjecté que si lui, il en est d'accord. Et les relations financières entre l'usufruitier et le nu propriétaire, quand il s'agit d'ajouter des liquidités à la société parce qu'elle a des besoins, mais là aussi, ça va être très transparent parce que ça va être constaté dans des comptes courants au nom de l'un ou au nom de l'autre.
Et ça a des incidences fiscales également ?
Alors, si on reprend l'exemple tout à l'heure de la gestion d'actifs financiers dans une société civile qui, par hypothèse, n'aurait pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Sur la fiscalité elle-même, tous les revenus générés, ils vont être fiscalisés à la flat tax. Donc l'imposition elle-même, elle n'est pas changée. En revanche, l'apport de la société civile, c'est dans la rédaction des statuts toujours, qui va prévoir trois choses. C'est que d'abord, elle va définir quels sont les éléments constitutifs du résultat. Ça va être bien évidemment les dividendes, les coupons, les plus-values matérialisées sur les cessions. Et puis ça pourra être aussi les gains latents sur des enveloppes financières de type contrat de capitalisation. Ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est que il va être prévu finalement la répartition des dividendes quand il y a une décision de distribution en fonction de l'origine du résultat. Mmh. Est-ce que c'est un résultat courant ? Est-ce que c'est un résultat exceptionnel ? Et la source du dividende, est-ce que c'est le résultat de l'exercice ? Ou est-ce que ce sont des réserves ? Et là, on aura fait ce que l'on aura voulu dans la rédaction des statuts. Et le troisième point, qui recoupe avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos statuts vont aussi prévoir que celui qui perçoit le revenu paye l'impôt. On n'aura plus la dichotomie. Donc, voilà, beaucoup...
Donc, ça résout aussi pas mal de problèmes.
Exactement.
Merci beaucoup.
Ça résout des problèmes, mais il y a quand même quelques difficultés.
Et donc, ça mérite d'être accompagné.
Exactement.
Isabelle Fauchon pour l'ingénierie patrimoniale de Neuflis OBC qui nous accompagnait ce matin dans les coulisses du patrimoine. Merci beaucoup.
Merci, Cédric.
Bonne journée. Le marché, en très, très légère baisse. -0,02% pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Toutes vos questions trouvent leurs réponses chaque jour sur l'antenne de BFM Business. N'hésitez pas à nous écrire, BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr. Et aujourd'hui, c'est Enzo Allo qui est avec nous. Bonjour Enzo.
Bonjour Cédric.
Pour Crypto Patrimoine, et on a essayé d'explorer ce monde des cryptos en regroupant quelques-unes de vos questions parvenues ces derniers jours sur ces thématiques-là. Question de Sébastien, le Bitcoin a franchi la barre des 30 000 euros. Est-ce le bon moment pour en acheter ?
Alors, fameuse question qui revient effectivement régulièrement.
Ah oui.
On est aujourd'hui sur un an glissant au plus haut depuis un an. Donc, ça reste aujourd'hui, si on compare un petit peu les performances passées, pas le meilleur timing qu'on a eu pendant l'année. On l'a quand même eu pendant quelques mois autour de 15 000 dollars. Donc, ça aurait été le bon moment pour effectivement commencer à vraiment renforcer les portefeuilles. Aujourd'hui, tout va dépendre, fin de compte, la réponse à cette question, elle est vraiment personnelle. C'est-à-dire, c'est l'horizon d'investissement. J'ai un horizon d'investissement court. Probablement que ce n'est pas un bon timing. Peut-être que même, je pourrais éventuellement shorter si je connais bien les risques et je sais dans quoi je mets les pieds. En revanche, si j'ai une position plutôt longue d'investisseur, non pas de trader, aujourd'hui, commencer à construire un portefeuille avec un Bitcoin à 30 000, ce n'est pas une mauvaise idée. Commencer à investir, par exemple, un quart ou un tiers de ce qu'on aurait voulu mettre, ça peut rester à peu près dans les clous. Si on regarde sur 10 ans, il y a quand même une stat qui est sortie récemment, sur 10 ans, en annualisé, la performance de Bitcoin, c'est environ 100% par an. Donc, les performances passées, bien sûr,
ne présagent pas.
Les performances passées, mais si on compare avec le Nasdaq sur 10 ans, sur la même méthode de calcul, on est environ entre 16 et 17% par an. Donc, c'est vrai que la performance, c'est ce qui emmène le plus souvent les investisseurs à vouloir s'exposer à Bitcoin. Aujourd'hui, on a encore quelques, au niveau macroéconomique global, sur les monnaies, sur les États, etc., encore quelques points noirs à passer selon la fin de l'année. Donc aujourd'hui, ça peut être un bon timing pour commencer à construire et continuer de renforcer continuellement. Ça ne devrait pas poser de problème.
Voilà donc quelques idées sur le timing d'investissement sur le Bitcoin. Question de Caroline. Face à la montée des cryptos, y a-t-il des stratégies d'investissement spécifiques à adopter ?
Oui, effectivement. Et c'est très propre à chaque investisseur. C'est-à-dire que connais-toi toi-même, c'est très important dans le cadre du patrimoine, puisqu'on doit connaître son profil de risque, le montant qu'on est prêt à perdre, surtout, parce que quand on investit dans les cryptoactifs, il faut absolument être conscient que ça peut vraiment...
On peut gagner, mais qu'on peut perdre.
Exactement. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs à prendre.
Et de façon parfois plus rapide que...
Et oui, c'est surtout ça. On a une volatilité qui est extrêmement forte sur ce genre d'actifs. Donc, il faut bien connaître les tenants et les aboutissants et allouer une partie de son patrimoine qu'on est en capacité de perdre. Donc, généralement, en tout cas avec nos clients, on dépasse généralement pas 5%. On peut monter jusqu'à 10 si on a un profil particulier, si on n'a pas d'enfant, qu'on n'est pas marié, etc. En tout cas, il faut faire les choses de manière assez prudente sur des actifs qui sont assez risqués. On arrivera quand même à capter la perf. Donc à court terme, continuer de renforcer petit à petit, puisqu'aujourd'hui, comme on le disait juste avant, c'est un petit peu cher. Si on a des stratégies plutôt long terme, effectivement, là, rentrer un petit peu plus fort, peu importe le prix. Bitcoin, oui, c'est des performances, comme on le disait, encore très intéressantes. Donc, il y a cette manière-là. Soit je construis mon portefeuille en achetant tous les mois, par exemple, toutes les semaines aussi. Il y a des solutions en France qui permettent de faire ça assez facilement pour... par coût de 10, 50 euros, commencer à construire pour les plus petits portefeuilles, soit rentrer là un tiers aujourd'hui paraît tout à fait intéressant.
Finalement, agir sur les cryptos comme on agirait sur des actions en faisant de l'investissement presque programmé.
Oui, clairement. C'est une partie de toute manière qu'il faut considérer dans son patrimoine comme la partie qui pourrait être la plus risquée. La petite poche qui pourrait apporter un peu plus de performance d'ici 1-2 ans. Donc oui, c'est intéressant de construire quand même une petite poche comme celle-ci aujourd'hui.
Question de Colin, quels sont aujourd'hui les actifs numériques à suivre ? Alors, là, on parle beaucoup de Bitcoin, ouais. Mais il n'y a pas que ça.
Effectivement. Alors, j'aime bien voir ça de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin qui a un fondamental particulier, qui répond à une problématique particulière également. Et on a tout le reste.
Donc, ah, d'accord.
Voilà. Donc, je compte vraiment Bitcoin comme un actif à part entière qui répond à une problématique. Et les autres actifs numériques que je considère comme étant de l'expérimentation aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit vraiment que ça peut partir à zéro. C'est qu'on voit même des grosses blockchains qui sont ultra capitalisées, qui sur un hack ou un problème de code ou un problème de management, en tout cas, ou enfin, pour celles qui sont un peu plus centralisées, on voit que ça peut très vite dévisser. Donc, il y a quand même, en termes de diversification, je peux voir les choses de deux manières. On va prendre un cas français, en plus, typiquement, The Sandbox est un cryptoactif qui permet de pouvoir s'exposer au metaverse d'une manière générale, etc. The Sandbox a été développé sur Ethereum, qui est même une autre blockchain sur laquelle on peut construire d'autres technologies. Donc en fait, c'est assez simple. Le fait de se dire que j'achète The Sandbox, je m'expose au succès simplement de The Sandbox. J'achète Ethereum, sur lequel a été développé The Sandbox, mais également pratiquement d'autres. Trois quarts des autres actifs numériques qui existent aujourd'hui, je vais être de facto diversifié sur l'ensemble des sous-secteurs liés à tout ça. Donc, il y a cette stratégie des smart contracts que moi j'apprécie beaucoup, puisqu'en achetant quelques actifs, 5-6, je vais être exposé au metaverse, au NFT, à la DeFi et à l'ensemble des sous-secteurs que je vais pouvoir retrouver, à l'immobilier aussi probablement, tokenisé, etc. Donc j'aime bien cet angle-là, quand on débute en tout cas et qu'on ne maîtrise pas encore tout. L'ensemble des tenants et aboutissants, c'est commencer avec des actifs qui sont dans le top 20, qui sont effectivement capitalisés, même si le potentiel de croissance est moins intéressant que ce qu'on pourrait avoir sur des actifs qui sont...
C'est pas forcément très intuitif, parce que quelqu'un qui débute, il dit bah, finalement je pourrais peut-être avoir plutôt intérêt à me choper une petite crypto quasiment inconnue qui coûte pas cher, à mettre très peu d'argent dessus en espérant que ça prenne l'ascenseur et plutôt que d'aller... chez les grandes vedettes qui sont très connues et où il y a potentiellement moins de potentiel, où le ticket d'entrée est déjà un peu cher.
Avec le recul, moi, de ce que je vois, c'est que ce qui est assez intéressant de faire, c'est de construire d'abord un portefeuille cœur sur lequel on sait que d'ici 3-4 ans, les cryptos sur lesquels on investit existeront toujours. C'est simple, il suffit de regarder encore une fois ce qui s'est passé avant. Si j'ai investi en 2013, les gens peuvent dire « Waouh, le mec, t'es précurseur, super, c'est un génie. » Ben, en fait, si on regarde le top 20 des actifs numériques de 2013, il n'y en a qu'un seul qui existe encore aujourd'hui, c'est Bitcoin. Donc si je suis trop tôt, je suis peut-être vraiment trop tôt pour le coup, et ouais. Auquel cas je vais devoir faire des rotations dans mon portefeuille, en tout cas, je vais devoir faire des arbitrages. Donc il y a plusieurs trains qui partent généralement, en fonction des différentes innovations technologiques qui sont liées à la blockchain, 2013, 2017, à chaque bull run en fait, hein, on a de nouveaux grosses performances, donc on peut diversifier un peu là-dessus, effectivement.
Allez, on passe à la question de Julie qui nous ramène un petit peu à une réalité plus connue. C'est la Banque Centrale Européenne qui réfléchit à mettre en place un euro numérique et elle se demande ce que signifie ce projet.
Alors je pense pour les banques centrales, c'est une alternative au cash déjà, qui est très coûteux à gérer. Tout simplement, alors ma vision personnelle, c'est que quand on a toutes les banques centrales du monde qui commencent à réfléchir à une monnaie numérique, la Banque Centrale Européenne ne peut pas ne pas... Déjà, y jeter un œil. Ils sont obligés de suivre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits. Je pense aussi qu'il y a également de quoi vouloir concurrencer Visa, Mastercard, en tout cas le monopole des moyens de paiement qui sont aujourd'hui plutôt chez les Américains et autres continents. Donc, le but de cette monnaie numérique, c'est de pouvoir permettre tout simplement de détenir des euros qui seront détenus sur la blockchain, qui sont émis par une banque centrale. Et en fait, on n'ira pas tout simplement à la banque retirer son cash. On aura probablement... Alors aujourd'hui, ça reste assez vague. Hein. On n'a pas de connaissance sur le code. Ça pose d'ailleurs quelques soucis, puisqu'on ne connaît pas le niveau de pouvoir que pourra avoir la BCE sur les actifs numériques qui seront émis. Est-ce qu'ils peuvent les bloquer? Est-ce qu'ils peuvent les geler? Est-ce qu'ils peuvent les retirer? Tout ça, c'est des choses qu'il faudra regarder. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, selon moi, puisque ça montre l'intérêt d'une telle technologie au plus haut des gouvernements. Donc, plutôt positif, en tout cas, sur l'écosystème, on va dire.
On reste sur cette question d'euro numérique, parce qu'on a Vanessa qui complète un peu la question de Julie et qui se demande si la mise en place de cet euro numérique pourrait avoir un impact pour les particuliers et les investisseurs.
Oui. Alors moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une barrière à l'adoption qui est que si on veut investir dans les actifs numériques et qu'on y connaît rien. Ouais. C'est assez compliqué. Il faut aller sur des plateformes, il faut les choisir, ensuite il faut envoyer des euros, il faut les changer contre des actifs. Et puis, bref, c'est quand même pas clair et c'est pas toujours évident, surtout quand on a l'habitude en France d'avoir des enveloppes fiscales assez simples, assurance vie, PEAL, compte titre, etc., où tout est assez, fin de compte, assez linéaire et assez simple d'utilisation.
Oui, puis on a une impression de sécurité, d'investir dans un monde connu, alors que là, on ne sait pas très bien.
Aujourd'hui, enfin, du coup, c'est que avoir des euros numériques, va rapprocher, il n'y aura plus qu'un pas en fait entre cet euro numérique qui sera sur la blockchain et potentiellement acheter des cryptoactifs. Donc je pense un très bon point pour l'adoption. Du point de vue bancaire, mon ancien monde, du coup, là d'où je viens, là c'est d'autres réactions plutôt, puisque c'est plutôt une peur de la fuite des dépôts qui est observée de la part des banques en se disant bah oui, mais aujourd'hui le cash et le liquide ne font pas partie effectivement de nos bilans. Si l'euro numérique prend plus d'ampleur, quid de nos capacités de prêter de l'argent, etc., si on n'a plus ces euros dans nos bilans, et auquel cas, il y a eu, sur le dernier texte de la Commission européenne, quelques pare-feux qui sont émis par quelques députés sur le fait que, probablement, on serait limité dans l'utilisation de ces euros numériques au début. Alors, ils parlent d'un montant de 3000 euros maximum. Mmh. En Chine, le yuan numérique a une durée de péremption, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas vos yuans numériques pendant tant de mois ou tant de temps, ils sont détruits. Ça pousse effectivement la consommation et la circulation de la monnaie. Alors, la Chine fait de la Chine, hein, ça reste leur politique assez particulière. Ça passerait à mon avis pas en Europe, on n'aura pas de choses comme ça, mais en tout cas, on peut essayer de voir un petit peu à l'avance ce qu'il y aura. Donc, de bonnes opportunités en tout cas.
Question de Léon. Il n'est pas un grand fan des actifs numériques. Il préfère, lui, les placements tangibles. Et il nous dit, les actifs numériques sont-ils un passage obligé pour diversifier son portefeuille ?
Pas du tout. Surtout, on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne maîtrise pas.
Si j'ai pas d'affinité,
si j'ai pas d'affinité avec l'actif, je ne vais surtout pas vouloir m'exposer à cet actif-là. Aujourd'hui, on peut s'exposer d'une manière générale à la blockchain ou aux actifs numériques également par des sociétés cotées. Donc je ne vais pas avoir une sensibilité de 100% comme si j'investissais sur Bitcoin, mais je peux investir dans des sociétés d'infrastructure qui vont construire typiquement les serveurs et vraiment le matériel qui va servir à tout ça. Donc vous avez Nvidia, AMD, bref, vous avez beaucoup de sociétés comme celle-ci. Vous pouvez également investir dans les sociétés cotées qui vont développer ce genre de produits en achetant Microsoft, en achetant Apple, en achetant aussi les grandes tech. Vous serez exposé également, d'une certaine manière, aux technologies liées à la blockchain. Vous pouvez également acheter des plateformes d'échange qui sont cotées au Nasdaq. Donc il y a d'autres moyens, donc pas les actions cotées. Ensuite, il y a toujours cette notion de tangibilité qui est assez aujourd'hui éparse, puisque les générations qui arrivent en dessous, elles ont été habituées au tout numérique. Moi, je vois bien parce que j'ai fait la transition entre je préfère acheter mon album de CD, mon DVD ou ma musique, il a fallu acheter du dématérialisé. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple et assez logique de ne pas posséder en réel, en tout cas en physique, les
actifs.
Donc je pense qu'il y a aussi un petit choc générationnel là-dessus et que les générations plus jeunes seront plus enclins à ne pas avoir de choses entre les mains quand on les achète. En revanche, effectivement, même si j'ai des bitcoins, je pourrais pas dormir dedans. Donc c'est important d'avoir un processus d'investissement qui soit normé, en commençant généralement par de l'assurance vie, PEA, compte titre, immobilier, pour ensuite aller sur ses
points. Oui, c'est ça, on dit pas qu'il faut transformer 100% de ses avoirs en numérique, en digital. Merci beaucoup d'être venu répondre à cette petite volée de questions liées aux cryptos. Enzo Allo, donc, et Crypto Patrimoine, qui répondait ce matin à toutes vos questions pour nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. C'est l'adresse, vous la connaissez. Et chaque jour, nos experts sont sur le pont pour vous répondre. Dans un instant, on retrouve 90 minutes business et c'est donc Sandra Gandoin.
Bonjour
Sandra. Votre programme du jour.
Est-ce qu'on parlerait pas à nouveau de casino ce midi, Cédric?
C'est probable.
Qui évolue jour après jour.
On a du nouveau.
Casino qui a bien reçu les deux propositions distinctes pour renforcer ses fonds propres. Les offres qui seront étudiées demain par les créanciers. En attendant, la cotation a été suspendue. On va en parler dans les détails, bien sûr, avec Mathieu Pechberti. On parlera des professionnels du bâtiment qui accentuent la pression sur les pouvoirs publics pour pour éviter un effondrement de la filière. Ce sera avec Marie-Cœur de Roy dans 10 minutes dans le Focus. Et puis, notre invité représente le secteur de la microélectronique. C'est Gérard Pignol, directeur de l'école d'ingénieurs de Lyon, qui ouvre une filière de formation parce qu'il va en manquer beaucoup des ingénieurs de microélectronique dans les prochaines années. On en parlera dans un petit quart d'heure.
Allez, c'est à suivre dans une poignée de minutes, 90 minutes business. Le marché, lui, est quasi étal, vous le savez. On hésite, on tourne, on s'accroche au niveau de clôture d'hier soir. On grignote 0,03%, 7388 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.